Maj, écoute.
La vision est pleine.
C'est de tout entendre.
H-1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Les chemins. Auditeur, auditrice, c'est H-1000. Aujourd'hui, carte postale spéciale. Je suis dans la Hétraie, du côté du Prat d'Albis. Comme vous pouvez l'entendre sous l'orage, je suis accompagné d'Agatha, qui est alors éthologue, autrice, illustratrice et médiatrice scientifique. Quel CV! Alors, j'avais dit à Agatha, est-ce que ça t'intéresserait de faire un H-1000 là, in situ, en montagne? Elle m'a répondu tout de suite, oui. Qu'est-ce qui t'attire, notamment aujourd'hui, sous l'orage, Agatha, en montagne?
C'est une bonne question. Moi, je dirais le... C'est deux mots qui veulent tout dire et rien dire, mais je dirais un peu le sauvage et le vivant. C'est vrai que la montagne, surtout aujourd'hui, on est un peu face aux éléments. On se rend compte qu'on n'est pas grand-chose, et je pense que c'est un petit rappel d'humilité qui fait pas de mal, quoi, de voir là on est sous l'abri des arbres, en pleine forêt, on entend l'orage qui claque, on est un peu seul au monde, quoi. Je pense que c'est... Ouais, ça fait du bien de se retrouver un peu à la bonne échelle.
Et d'où vient cette passion de la nature? Comment es-tu arrivé à être éthologue? Je précise pour les auditeurs et auditrices que l'éthologie, donc c'est l'étude du comportement animal.
Exactement.
Et comment arrive-t-on comme ça à étudier le comportement des animaux?
Alors, l'origine, je pense que c'est... un peu et même complètement à cause de mes parents. Hein. Mon père a grandi un peu en forêt, dans le Perche, et il a passé tout son temps dans l'ancienne forêt des Carnutes, la forêt des druides. Donc il a grandi en forêt, je pense que petite, il m'a vite montré que c'était bien, la forêt. Ma mère, c'est pareil, hein, les bestioles. Du coup, ils m'ont un peu traîné beaucoup en voyage et dans tous les coins possibles, on pouvait voir des animaux. Donc c'est resté. Après, comment est-ce qu'on devient éthologue? Il y a plusieurs voies, moi j'ai fait un peu de biologie et après c'est surtout être observateur en fait, hein. L'étude du comportement animal, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête ou dans en tout cas le fonctionnement des autres animaux, et c'est un exercice aussi intéressant parce qu'il faut se mettre dans les chaussures des autres, quoi. C'est un exercice compliqué parce qu'en tant qu'être humain on pense toujours que tous les autres animaux fonctionnent comme nous, et en fait c'est pas un service à leur rendre, c'est... Faut se rendre compte qu'un chevreuil, un merle, il voit pas le monde de la même façon, mais au premier degré, c'est-à-dire qu'il entend pas les mêmes choses, il voit pas les mêmes choses, il sent pas les mêmes choses, et c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe pour eux, quoi.
Qu'est-ce que t'évoque la connaissance du comportement animal et de la nature plus généralement?
Je pense qu'on en a besoin. Alors ça peut sembler très vain, hein. Il y a beaucoup de gens qui, quand j'expliquais par exemple mon sujet de thèse, où j'essayais de comprendre la vie sociale des perruches ou des choucas, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais ça sert à rien ». Enfin, je veux dire, quel débouché, quelle application, quelle rentabilité dans ce genre d'études? Et en fait, moi, un peu naïvement, je pense que si on comprend pas et si on connaît pas les autres êtres vivants qui nous entourent, on va un peu dans le mur. Enfin, je veux dire, c'est très beau d'être dans notre société, avec ses règles, le capitalisme, tout ça, mais je veux dire, si on comprend pas, enfin ça peut sembler très vain, mais je trouve que c'est assez essentiel, c'est tout bête, mais tous les urbains qui ne regardent pas les pigeons alors qu'il y en a des centaines et qu'ils vivent avec eux au quotidien, ou le figuier qui sort du caniveau parce qu'il a trouvé un coin où pousser, etc. Enfin, c'est eux nos voisins les plus importants et je pense qu'il faut en tenir compte, quoi.
Je te propose un peu de couper l'interview. Et on va essayer de faire quelques pas dans la forêt. Là.
Allez.
Alors, donc là, nous sommes dans une étrée. Tiens.
Mais c'est une étrée qui a été plantée par l'homme ou...
Je pense que là, on est plutôt sur une forêt secondaire. Mmh. Tu vois, je pense que cet arbre, notamment là, sauf qu'il y a juste du PQ, bon, les gens sont très respectueux. Mais tu vois, je pense que cet arbre-là, vu la circonférence du tronc, doit être très très ancien. Et alors, par ici, viens. Alors, le son va être un peu, je dirais, meilleur, parce qu'en fait, on était couvert par le houppier des arbres. Là, vous êtes dans l'ambiance H1000 totale. C'est les hauts sommets qui sont totalement envahis par des nuages d'orage.
Ah, c'est beau, hein, c'est beau.
Est-ce qu'elle te fait peur, la montagne?
C'est une bonne question. Globalement, moi je me sens très vite, je suis pas une très grande aventurière, mais globalement les endroits où on se retrouve un peu seul au monde et à la merci des éléments, oui un peu. Je pense que j'ai moins peur de la montagne que de l'océan. Je pense que l'une de mes pures angoisses, ce serait vraiment d'être seule au milieu de l'océan, parce que je trouve qu'on est vraiment à la merci de tout, quoi. La montagne, je pense que j'ai une vision très naïve de se dire, voilà, on peut aller sous le couvert des arbres, on peut être un peu à l'abri. Moi, le côté forêt, je trouve que ça fait un peu sanctuaire, maison, sans l'abri. Mais je sais que voilà, le temps peut changer très vite et que mine de rien, voilà, les vents, la pluie, on peut être pris. Je suis pas une aventurière, je ne serais pas la Maline seule sur une crête un jour d'orage. Là ça va parce que bah déjà parce que je suis pas toute seule. Mais je pense que le pire, je pense que c'est la montagne enneigée. La montagne en hiver me fait beaucoup plus peur. Ouais. Bestiole que moi j'aime beaucoup et que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Et la première, je l'ai vue il y a un an, une salamandre. J'aimerais beaucoup en voir. En plus, elles aiment bien la forêt, le sous-bois, mais bon, je sais pas si elles montent beaucoup en hauteur, quoi. Elles sont plus sous-bois.
Alors, justement, là, tu m'interpelles parce que c'était un peu la question que je voulais aussi aborder avec toi. Personnellement, je trouve que en montagne, la montagne devient de plus en plus silencieuse. Et penses-tu que ton travail, par rapport à toute la problématique écologique actuelle, est-ce que tu as confiance en ton travail? Est-ce que tu as confiance en l'avenir? À la capacité qu'auront les hommes de préserver ce bien universel qu'est la nature?
C'est une question compliquée. Moi, je suis plus chercheuse, donc. Mais mon travail actuel, c'est de parler du monde vivant aux autres. Donc essayer de les sensibiliser, surtout des animaux un peu courants mais que les gens n'aiment pas trop, comme les corbeaux. Et leur faire comprendre que ce sont des acteurs essentiels et qu'on les aime ou pas, c'est pas la question. Ils sont là et il faut vivre avec eux parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de cohabiter que de bien s'entendre et de bons voisins. Est-ce que j'ai foi en l'avenir ? Ça dépend, je suis quelqu'un d'un peu cynique. Après, je trouve que... Alors, c'est un fait avéré. Le printemps silencieux, malheureusement, que Rachel Carson avait prédit en 62, il y a 60 ans, c'est vrai, hein, les chiffres le montrent. En 15 ans, il y a beaucoup de scientifiques qui s'alarment de la décroissance, du nombre d'oiseaux qui chutent, notamment dans les champs, les alouettes, les perdrix. On parle de un oiseau sur trois, 8 oiseaux sur 10 pour les perdrix qui auraient disparu en 15 ans, donc c'est des chiffres qui font froid dans le dos. Moi, je pense que notre écosystème est quand même assez résilient et que il y a quelques exemples qui me donnent de l'espoir où il y a eu des zones complètement dévastées où la nature reprend ses droits, où les plantes reviennent, les animaux reviennent. C'est juste qu'il faut leur laisser la possibilité de le faire. Et là, clairement, je pense, avec ma très faible expertise en matière, hein, parce que je suis pas écologue, et c'est toujours des problèmes complexes, mais là, il y a clairement des produits que l'on utilise qu'on ne devrait plus utiliser. On sait qu'ils ont ils sont pas sélectifs. C'est-à-dire qu'on veut les utiliser pour supprimer certains insectes qui font des ravages. Mais sauf que le produit ne sélectionne pas l'insecte A ou B. Il dégomme tous les insectes et de fait, tous les animaux qui en dépendent sont impactés. C'est le fonctionnement classique et immuable d'une chaîne, et dès qu'on touche à un maillon, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse sembler, ça a forcément des conséquences, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises, mais malheureusement, les candidats qui sont ressortis aux différentes élections, tu vois, on entend chanter,
ouais.
Vont pas vraiment dans le sens de l'écologie et de la protection des ressources environnementales, donc c'est plus ça qui me désespère, parce que je pense qu'il y a une volonté, il y a toute la génération des 20-30 ans qui s'investit, il y a beaucoup de gens qui reviennent au fait d'avoir un jardin, de cultiver ses légumes, d'acheter local, d'acheter bio, tout le tintouin, beaucoup de gens qui réduisent leur consommation de viande. Moi, j'ai beaucoup de gens de ma génération qui ne veulent plus prendre l'avion, tu vois, pour essayer de prendre en compte ces choses-là. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté qui se développe de plus en plus, mais le fait de tout faire reposer sur l'individu, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas le vrai problème, on le sait bien. Même si chacun fait sa part et c'est tout à fait louable, il n'y aura pas de vrai changement s'il n'y a pas une décision politique qui va infléchir et changer le cours des choses.
Est-ce que la solution, sans faire, comment dire, le sublimateur émerveillé, est-ce que la solution, c'est pas ça ? Juste d'écouter la nature qui nous parle.
J'ai beaucoup étudié le comportement animal, mais j'ai peu étudié l'interaction entre les animaux et leur environnement, qui est une autre branche de la biologie, qui est tout aussi intéressante. Mais au niveau de l'être humain et sa place, il y a des choses très intéressantes, je trouve, au niveau de la représentation et de ce qu'on appelle souvent le propre de l'homme. Parce qu'en fait, l'éthologie, c'est une science relativement récente. On estime que le terme est apparu à la fin du 19e. Et les pionniers de la discipline, qui sont les plus connus, c'était trois chercheurs, Konrad Lorenz, Nicolas Tinbergen et Carl van Frisch, qui ont eu tous les trois le prix Nobel en 79, j'ai un vieux doute. Donc c'est une science relativement récente, mais elle a été créée par des êtres humains, et les premières démarches en éthologie, c'était de comparer l'être humain aux autres animaux. C'est-à-dire que les questions que l'on posait aux animaux, c'était des questions auxquelles nous, on avait déjà les réponses. Est-ce que les animaux sont intelligents selon nos critères à nous ? Et c'est encore quelque chose qu'on trouve aujourd'hui. Il y a plusieurs grandes expériences emblématiques sur est-ce qu'un animal sait reconnaître son image dans un miroir ? Est-ce qu'il sait qui il est, etc. Sauf que pour nous, êtres humains qui utilisons les miroirs depuis très très longtemps, ça semble très évident, mais est-ce que... Il y a plein d'espèces auxquelles on a soumis, on a présenté ce test, et il y en a qui utilisent très peu la vue, par exemple, ou qui ne voient pas les couleurs de la même façon que nous, donc le test du miroir n'est pas forcément pertinente. On s'est posé la question des outils. Pendant très très longtemps, le propre de l'homme, c'était de faire des outils. Et c'était le cas jusqu'à la fin des années 60. Il a fallu attendre que Jane Goodall, elle observe des chimpanzés utiliser des pierres, utiliser des bâtons dans la forêt tanzanienne pour qu'on remette en question ces questions-là. Et depuis ces années-là, on ne cesse de se rendre compte que ce que l'on pensait être le propre de l'humain, ben en fait, il y a plein d'autres espèces qui, à des degrés différents, l'ont également, le rire, l'empathie, l'entraide, le feu même. On s'est rendu compte qu'en Australie, il y avait des espèces de rapaces, des milans notamment, qui utilisaient le feu. Alors ils ne savent pas le faire, mais ils sont capables de prendre des branches enflammées, de le déplacer ailleurs, parce qu'eux en fait ils se nourrissent des animaux qui fuient le feu. Donc tous les petits rongeurs, les petits marsupiaux, parce qu'on est en Australie, qui se sauvent du feu, ils en font leur repas. Donc, et ça c'est une découverte qui a été publiée en 2019. Alors que bien sûr les aborigènes d'Australie, ça fait des milliers d'années qu'ils l'ont observé, les oiseaux qui font le feu. Mais du coup, voilà, il y a ce... Même dans une science qui se veut à la découverte des autres espèces, il y a toujours l'être humain qui s'est positionné au-dessus des autres et qui a essayé de voir à quel point il était exceptionnel par rapport au reste. Et je trouve ça intéressant que là, depuis le XXe siècle, bah, de plus en plus, on se rende compte que c'est pas le cas du tout.
Non, non, en fait, ce qui m'interpelle, et c'est ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Dieu, c'est l'homme. Alors attention, je ne l'affirme pas, mais je veux dire par là que Dieu, c'est l'homme dans le sens où on a un pouvoir de vie et de mort sur tout le monde vivant.
Les plus gros problèmes qui en ce moment, je pense, avec la faune sauvage, sont souvent des grands prédateurs. Parce que... Alors c'est un problème très complexe, et j'ai pas la prétention d'y trouver une solution ou de pouvoir le résumer comme ça en quelques mots. Mais par exemple, en France, les gros soucis que l'on a, c'est avec le lynx, le loup et l'ours, qui posent de réels problèmes, parce qu'on a été, notamment pour le loup, plus de 100 ans sans loup sur le territoire, donc les gens qui sont directement confrontés et qui ont toutes les raisons de pas être contents de la situation actuelle, notamment les bergers qui se retrouvent des fois seuls dans des conditions difficiles pour gérer leurs troupeaux, je comprends totalement qu'ils soient désemparés, mais je trouve que ça reflète aussi qu'on ne sait plus vivre avec ces animaux-là, en fait. On a perdu l'habitude de... Il y a des pays où les animaux n'ont pas disparu. On évoquait l'ours tout à l'heure hors micro. Il y a des endroits où l'ours est beaucoup plus présent, dans des pays beaucoup plus petits que le nôtre. Et de ce que j'en ai compris, les gens n'en ont pas peur. On a l'habitude qu'il y ait des ours. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'accident. Il doit y en avoir. Puis les ours se servent aussi parfois dans les troupeaux. mais ça, on n'est plus habitué à cette cohabitation et à rencontrer des forces qui nous dépassent. Et moi, la première, là, si on croisait un ours au coin du chemin, je ne ferais pas la finaude, quoi. Hein.
Mais comment, justement, reconstruire ce lien que nous avons perdu avec la nature, puisque l'homme s'est placé, comme le dominant ou le prédateur. Voilà. Comment retrouver ce lien?
Le problème aussi, sans doute, c'est qu'on a pris beaucoup d'espace. La cohabitation problématique avec ces espèces-là, elle se passe parce qu'on ne laisse plus la place à ces animaux-là, en fait. Maintenant, même en France, des zones où il n'y a pas du tout d'êtres humains, c'est rare. Même dans les zones, les crêtes les plus hautes des Pyrénées, il y a toujours des randonneurs, des gens qui se baladent. Des zones reculées où il n'y a personne.
Ça dépend.
Ouais. Ici, on est plutôt tranquille. Il n'y a pas grand monde. Mais
Moi, je pense que la montagne est l'un des derniers sanctuaires du monde sauvage. Je mets ça entre guillemets parce qu'effectivement la montagne elle est aménagée. Mais tout de même ça tu l'entends pas en bas.
Ah non. Même au cœur de la ville, ça tu l'entends pas. Mais la montagne, c'est vrai que tu le disais, c'est le dernier refuge. Mais par exemple, en France, je trouve ça très intéressant, le loup a été pendant très longtemps que dans les Alpes. Mais c'est un animal qui peut vivre n'importe où, en plaine. Là, on se rend compte, t'as un peu fait le buzz cette année, parce qu'on a observé un loup dans le Morbihan. Le dernier loup qui a été abattu avant qu'il disparaisse du territoire, il me semble qu'il a été abattu dans le Poitou. Donc la montagne, c'est pas l'habitat du loup, c'est que c'est l'endroit où il était le plus tranquille et où il y avait le moins d'êtres humains.
As-tu un lieu secret préféré?
Bonne question. Alors attends, il me faut un peu le temps de la réflexion. Un lieu secret préféré?
Dans la nature, bien
sûr. Oui, bien sûr. Je pense que pour la nostalgie, je pense que j'évoquerai la fameuse forêt où mon père a grandi, où j'allais petite, qui est la forêt de Senonches. Qui est entre Chartres et Le Mans, si je puis dire. Et c'est en effet les restes d'une très ancienne forêt. Oui, gamine, ça me fascinait. Pourtant, je crois que j'ai jamais vraiment croisé d'animaux dans cette forêt, parce que j'y allais l'après-midi et que je faisais du bruit et que voilà. Mais tout me fascinait. Enfin, même un escalier aménagé dans la butte, j'avais l'impression que c'était le travail des fées et des lutins. Ouais, cette forêt-là. Et puis elle est drôle. Enfin, j'y allais pour ramasser les cèpes, parce qu'il y a beaucoup de cèpes. Donc c'était un peu la tradition familiale à l'automne d'aller ramasser les champignons. Et puis il y a des endroits où il y a eu quelques impacts d'obus. Donc il y a des espèces de grands monts comme ça, des espèces de montagnes dans la forêt. Donc oui, je pense que pour le côté un peu nostalgique, ce serait mon endroit secret préféré.
Quelle est ton odeur préférée?
C'est compliqué. Là, par exemple, l'odeur que l'on renifle, je sais pas si c'est le pétrichor, là, l'odeur du sol humide. Mais là, on est un peu autour des résineux, on sent la sève, c'est agréable. Ah, c'est dur. Là, comme ça, j'aurais dit l'odeur des livres, parce que je suis un rat de bibliothèque et que j'adore lire. Mais selon les livres, avec les encres, c'est pas toujours très agréable. Je dirais peut-être, mais c'est pas non plus une odeur très agréable, mais elle me touche au cœur, c'est l'odeur des plumes. Quand j'ai travaillé avec des perroquets et des perruches, des perroquets notamment, on le sait peu, mais ils ont une espèce de poussière de plumes Et en fait, quand on rentrait dans la volière des perroquets, ça sentait très fort cette odeur de plume. Et c'est très dur de comparer à une autre odeur existante. Enfin, je vois pas qu'est-ce qui ressemble à l'odeur de la plume, mais c'est vraiment une odeur un peu chaude, enfin, et un peu poudreuse. Je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais ouais, l'odeur de plume, peut-être.
Es-tu sensible au son? Et quels seraient les sons pour lesquels tu es le plus sensible?
Bah, les sons, et notamment quand on veut observer les animaux, c'est un peu le pli, parce qu'il y a quand même plus de chances souvent d'entendre que de voir. Donc c'est un petit peu comme un... Comment dire? Comme un aperçu, quoi. Comme... Où l'animal donne un petit peu sans trop se dévoiler. Donc j'aime bien un peu écouter, même si je dois confesser que je suis pas encore très bonne pour reconnaître les sons d'oiseaux. Je connais les oiseaux les plus classiques, le merle, le pouillot, celui qui compte ses écus, enfin des quelques sons comme ça, ou le rouge-queue. Il y a quelques oiseaux que je sais identifier facilement, mais il faudrait que j'apprenne encore là-dessus. Quels sons? Je pense qu'un des sons que j'aime le plus entendre, parce que ça veut dire aussi plein de choses, c'est le retour d'un animal que moi j'aime beaucoup, ça doit être le bruit du grand corbeau. C'est un bruit comme ça très rauque qu'on entend dans les cimes. Et j'ai entendu mes premiers grands corbeaux il n'y a pas si longtemps, et c'est un oiseau pareil, voilà, qu'on a chance de pouvoir voir dans les Pyrénées, mais qui est plus si répandu. Alors ça change, il est en train de revenir, donc j'en suis ravie. Donc ouais, je pense que le bruit du grand corbeau a une signification particulière pour moi.
Nous voici un peu à l'abri, Agatha, enfin plutôt à l'abri, cabane du Bladas. Et je pense que c'est ici qu'on va quitter notre carte postale sonore. Beaucoup de mots aujourd'hui, mots M-O-T-S, sous une ambiance orageuse. Je te laisse donc, Agatha, le soin de conclure notre déambulation sonore.
C'était dépaysant. C'est vrai qu'il y a eu cette ambiance un peu de fin du monde. On n'a croisé pas d'autres êtres humains depuis que l'on est dans la montagne. Quelques animaux quand même, les chevaux, les vaches. Là, deux chiens un petit peu vindicatifs. Quelques oiseaux qu'on entend au loin. Et puis ouais, on a vraiment l'impression d'être hors du monde, quoi. Le bruit de la pluie sur les fougères, les éclairs. Il y a un côté à la fois très rassurant et un peu inquiétant d'avoir la sensation d'être seul au monde, quoi.
Et ça te plaît, cette sensation?
Ouais, je trouve que c'est assez agréable. Étrangement, comme je disais, je suis pas une grande aventurière. J'aurais pensé que j'aurais été inquiète ou pas, et pas du tout. Je trouve qu'il y a un côté un peu immuable, rassurant. De se dire que malgré les changements qu'on peut observer, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des vallons qui sont très jaunes, qui ne nous rassurent pas. En juillet, de voir qu'il y a des endroits où c'est cramé, même très haut. Se dire que malgré tout, la pluie, la montagne, il y a quand même des choses qui sont toujours là et qui, on l'espère, le seront encore longtemps.
En tous les cas, je te remercie. Et auditeur, auditrice, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de l'émission en totale immersion, comme toujours. Prenez soin de vous et surtout de la nature. Merci, Agatha.
Avec plaisir.
Ressentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine,
Je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.